Divergence numérique. Bon Noël à tous. Nous sommes le jeudi 25 décembre et malgré tout, eh bien Divergence numérique est là pour vous tenir au courant cette fois-ci en musique principalement de l'actualité des logiciels libres. Gilles Bouget en votre compagnie. Albert Bruck avec nous. Bonsoir Albert.
Bonjour, bonsoir Gilles.
Et nous nous passons ce soir de la présence de Jean-Claude Stiegler de LinuxFrench.net et puis aussi de D'Antoni de l'ECM, car cette émission s'est faite un petit peu en kit et au dernier moment, un petit peu comme d'habitude, mais la qualité est au rendez-vous, gageons-le. On en salue notre ami Bruno Méria qui est technicien aujourd'hui à Divergence. Alors aujourd'hui on va parler de la musique libre. Alors qu'est-ce qu'on entend par musique libre? Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'on entend par, en général, le libre? Eh bien, première distinction, je crois, Albert, à faire, s'il ne s'agit pas uniquement de la gratuité qui est en cause.
Non, non, tout à fait. Beaucoup de gens pensent que pour avoir du logiciel libre, en fait, le logiciel libre est en lui-même quelque chose de gratuit. Ce n'est pas absolument vrai, c'est-à-dire que le libre peut être aussi payant, mais qui dit libre dit en général possibilité de modifier ou de réutiliser à son propre avantage. Avec la musique libre, là, les choses changent légèrement et nous allons en parler durant le cours de cette émission.
Voilà, une émission qu'on va tout de suite démarrer en musique, en vous donnant une première adresse indispensable. musique-libre.com, c'est à mon sens le site langue française de référence, un site qui a fait peau neuve il y a peu de temps et pour le bien de la navigation, et un site sur lequel on trouve de la musique avec entre autres les compositions assez j'allais dire minimalistes, en tout cas intéressantes de Rico da Alvarez, extrait d'un album intitulé Exorciste de style. Il va nous interpréter avec, suivi de Bach Das Imagens. Rico da Alvarez dans Divergence Numérique, une émission à propos de la musique, à propos des licences libres dont on va parler. Mais peut-être pour bien préciser les choses, aujourd'hui on assiste avec l'essor de la musique électronique à une pratique que d'aucuns croient nouvelle, alors qu'en fait ça l'est pas du tout. C'est celle de d'échantillonner, de prendre des petits morceaux de telle ou telle œuvre pour l'assembler avec d'autres d'une autre façon. En fait, c'est une technique qui a toujours existé dans les musiques traditionnelles, puisque les gens en fait ont toujours finalement créé en piochant de ci de là et en réarrangeant d'une autre façon. Alors, il faut revenir aussi à l'histoire un petit peu à l'histoire du copyright ou à l'histoire de la façon dont les choses se passent aujourd'hui, d'où ça vient. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, le bluesman noir américain Robert Johnson a enregistré des albums sous plus d'une dizaine de pseudonymes, chacun appartenant à des productions différentes. Non content de payer $2 l'achat des droits complets sur la chanson, ce qui était en fait un véritable contrat de cession de droits, les producteurs blancs de l'époque n'avaient aucun scrupule à s'octroyer des droits sur la personne, même de l'artiste, à savoir son nom. La reconnaissance d'un nom pour un artiste, c'est quand même son fonds de commerce, bien plus que d'hypothétiques droits perçus sur les ventes de disques. C'est comme ça notamment que s'est constitué une bonne partie du mythique catalogue de Sun Records, le label d'Elvis, Chuck Berry, Memphis Lee, Muddy Waters, Johnny Hooker, B.B. King et d'autres, qui ont tous un jour ou l'autre, sous un nom ou un autre, enregistré des titres pour les studios Sun. Donc on est un petit peu dans un paradoxe, à savoir qu'aujourd'hui le droit finalement qui entoure la pratique musicale est en contradiction avec la façon finalement dont se crée la musique depuis la fin des temps.
Tout à fait, en fait ça peut paraître assez bizarre, mais c'est le droit d'auteur qui est un peu bafoué aujourd'hui, surtout par les maisons de disques, on va dire, parce que c'est elles qui en tirent les plus grands avantages. Mmh. On pourrait citer, pour revenir un peu à l'actualité du logiciel libre, le cas de l'EUCD, qui en fait va interdire même la copie privée d'œuvres copyrightées. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même les licences libres obligent les personnes qui les écoutent ou qui les redistribuent à citer le nom de l'auteur. Parce que il y a aussi dans le libre des licences qui doivent être respectées, tout comme les licences logicielles, et qui incluent certaines conditions, dont citer le nom de l'auteur, de l'album et du morceau. Ça, c'est... Et en fait, il existe aussi de nombreux types de licences musicales qui donnent chacune des droits qui sont vraiment différents. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que dans le logiciel libre.
Alors en fait, il y a forcément des musiciens qui finissent par se dire un jour, là il y a un problème, à notre époque on doit trouver des textes juridiques un peu plus sophistiqués que ceux qui datent du début du siècle dernier en l'occurrence, et donc il y a aussi des juristes qui se penchent là-dessus. On aura dans le courant de cette émission Jean-Baptiste Souffron, qui est doctorant au CERSA. Alors le CERSA à Casaco, c'est le centre d'études et de recherche en sciences administratives qui se partage entre Paris 2 et le CNRS. Donc il est doctorant là-dedans, donc il connaît bien le droit, et puis il nous parlera en fait du travail qu'il est en train de réaliser avec une collègue, du travail de portage et de traduction d'une de ses licences, à savoir la licence Creative Commons, dont le site est creativecommons.org, et donc des particularités de ce travail-là. On aura peut-être aussi, mais là rien n'est moins sûr, Obi-Wan Benjiraf, qui est la personne qui maintient le site www.musique-libre.com, d'où sont extraits pas mal de renseignements qu'on va vous livrer là, et puis d'où est extrait aussi un petit peu de musique, car on est là pour en écouter. On va écouter un groupe qui s'appelle Lubia Dub System, qui vont nous interpréter Fitanja, suivi d'un autre morceau qui s'appelle Pharaon. Dob System, peu d'informations sur ce groupe, mais on aura l'occasion d'en reparler dans Divergence Numérique. On va faire un petit tour d'horizon des avantages en fait qu'il y a à libérer la musique, la vôtre ou celle des autres, puisque les avantages ils sont autant pour les créateurs que pour entre guillemets les consommateurs.
Tout à fait, on va essayer de prendre ça un peu dans les ordres. Il faut dire déjà que ce que vous écoutez comme musique, que ce soit à la radio ou partout à la télé, c'est en général des musiques qui viennent de maisons de disques. Donc en fait, ce ne sont pas tous les artistes que vous pouvez entendre, mais qu'une petite partie qui ont été bien choisies, bien sélectionnées, qui correspondent à des critères qui ont été édictés par donc les maisons de disques, ce qui peut être dans certains cas pas mal, et on en apprécie tous certains, mais qui peuvent aussi être ce qu'on appellerait un peu de la boucherie. De la boucherie musicale, quoi. Mmh. De la musique consommable et jetable. Donc, la musique libre a plusieurs avantages. Déjà, pour l'auteur, c'est de faire connaître son œuvre. Alors que ce serait déjà plus difficile pour lui, peut-être, de passer par une maison de disque parce que, justement, sa musique ne rentre pas dans ses critères. Un deuxième point, c'est le fait que, aussi, en mettant sa musique au niveau de libre, ça ne rend pas cette musique-là illégale. Mmh. C'est-à-dire que il y a des restrictions.
Oui. C'est une façon de protéger en fait sa création.
C'est une manière de protéger sa création et en même temps de la rendre accessible. Mmh. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète, qui dit musique libre ne dit pas musique obligatoirement gratuite. Mmh. Beaucoup de groupes d'ailleurs qui font de la musique libre vendent des CD, font aussi des concerts qui sont payants. Mmh. Mais malgré tout, vous pouvez récupérer leur œuvre sur Internet pour les écouter chez vous dans le cadre d'une utilisation privée ou alors pour la diffusion sur des émissions radio comme nous le faisons aujourd'hui et comme nous l'avons fait déjà depuis quelques émissions sur Divergence.
Voilà, sur les radios non commerciales ou pour des... ou dans un but non lucratif au fait. Départ. Quoi. Alors bon, évidemment, il y a des petites précisions selon le type de licence, mais grosso modo, c'est à peu près ça qui se passe.
Tout à fait. Il existe en fait plusieurs licences musicales. Il y en a à peu près une dizaine, ce qui fait un peu beaucoup, et c'est vrai. Il y en a certaines qui sont complètement libres, mm-hmm. on dit qu'elles sont copyleft, gauche d'auteur, contrairement au copyright. Ce qui veut dire en fait que là tout est possible, modifiable et écoutable, c'est-à-dire que le coprivé est autorisé, la modification est autorisée, que ce soit pour un usage privé ou commercial, que la modification l'est aussi, que l'utiliser dans le cadre de samples, comme on parlait tout à l'heure, est aussi autorisé, etc. Ça, par exemple, c'est la licence Art Libre qui permet tout ça. Il y a aussi la licence dont nous parlera Jean-Baptiste tout à l'heure, qui est la Creative Commons License, qui elle, est déjà un peu plus différente, qui ne permet pas tout à fait les mêmes choses que la licence Art Libre. Mmh. Et en fait, dans cette licence Creative Commons, il y a quatre sous-licences aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué.
Comme le sont d'habitude, hein, tous les contrats, on s'attend à ce que ça soit pas forcément simple. J'aimerais revenir un petit peu sur la licence Art Libre, qui est à ce jour, il faut le préciser, puisque ça risque de changer assez rapidement, la seule disponible en d'autres langues que l'anglais, à savoir en français, en anglais aussi, en allemand, en espagnol et en portugais. Alors là, j'ai sous les yeux le préambule de cette licence que je vous livre telle quelle. Avec cette licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l'auteur. Loin d'ignorer les droits de l'auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d'art. Alors que l'usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l'accès du public à l'œuvre, la licence Art Libre a pour but de le favoriser. L'intention est d'ouvrir l'accès et d'autoriser l'utilisation des ressources d'une œuvre par le plus grand nombre, en avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création, dans le respect des auteurs, avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. En effet, avec la venue du numérique, l'invention de l'Internet et des logiciels libres, un nouveau mode de création et de production est apparu. Il est aussi l'amplification de ce qui a été expérimenté par nombre d'artistes contemporains. Le savoir et la création sont des ressources qui doivent demeurer libres pour être encore véritablement du savoir et de la création, c'est-à-dire rester une recherche fondamentale qui ne soit pas directement liée à une application concrète. Créer, c'est découvrir l'inconnu, c'est inventer le réel, avant tout souci de réalisme. Ainsi, l'objet de l'art n'est pas confondu avec l'objet d'art fini et défini comme tel. C'est la raison essentielle de cette licence Art Libre pour promouvoir et protéger des pratiques artistiques libérées des seules règles de l'économie de marché. Je crois que le préambule est assez clair.
Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que le fait de mettre sa musique en libre, ça ne va pas causer non plus la perte de l'auteur. Ce n'est pas parce que la musique est libre que le musicien va se retrouver à la rue demain. Et que ça va en fait lui permettre de faire beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand vous voudrez rémunérer cet auteur, vous pourrez le faire directement. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un disque que vous allez acheter dans un magasin,
À 20 euros,
seulement 1 euro maximum est reversé à son auteur. Bon, selon l'auteur, effectivement, ça peut varier de 1 à 2 euros. Mm-hmm. Que tout le reste passe à la fabrication, encore 1 ou 2 euros passe à la fabrication, qu'après, quasiment 15 euros passe à la maison de disques. Et le reste, peut-être pas 15 mais 12, excuse-moi, et que ce qui reste, ça passe aussi sur la dernière tranche, c'est-à-dire le distributeur. Mm-hmm. En fait, l'auteur va se retrouver quasiment sur disque à 20 euros avec 1 ou 2 euros, et tout le reste partira en fait dans la maison de production et dans celle qui distribue.
Alors avant d'écouter un petit peu de musique, pour refaire un petit tour sur ces licences. Donc la licence Art Libre, celle dont on vient de parler, qui est complètement libre puisqu'on peut faire une écoute privée, modification à usage privé, travaux dérivés à usage privé, distribution privée, tout est possible. Il y en a pas mal d'autres, il y en a 9 en tout, la FML, l'EFFOL, la OML, Open Music License, qui se décline en 4 couleurs et en quatre licences précises, la FMPL, la LPL du label Loka Records dont on va parler, et puis donc la Creative Commons dont on parlait, l'OSML, Open Source Music License, et EMPL, Electronic Music Public License. Donc il y en a pas mal. Elles permettent ou ne permettent pas certaines choses selon le type, etc. Donc c'est assez élaboré. Si vous voulez en savoir plus, allez donc sur musique-libre.com et à la page des licences, vous trouverez un lien notamment vers un tableau très utile qui récapitule toutes les caractéristiques des différentes licences que l'on doit à un certain tournesol qu'on peut même trouver en version imprimable. On va maintenant écouter Mémé, un des artistes du label Loka Records, un label basé à Brighton. C'est lokarecords.com. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur la page de ce très joli site, de découvrir les musiques et puis de lire le manifeste. Bon, il est en anglais, mais il vaut son pesant de cacahuètes. J'ai pas eu le temps de vous le traduire. Il y a un manifeste en première page qui est très bien. On va écouter deux morceaux, Precious et un morceau d'une seule lettre, la lettre E.
The market has been dominated by pirates who are giving away my clients' copyrighted work free. That is the major problem we face today, and we believe that through this deal with RWA that we will be able to assist the legitimate services to get out there and compete with the illegitimate ones.
I thank you. We didn't start my time until about a minute. So technically my time has expired.
Divergence numérique, on est donc en ligne maintenant avec Jean-Baptiste Souffron, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, joyeux Noël, hein, puisqu'on est le 25 décembre, donc peut-être un petit peu en retard pour ceux qui nous écouteront via d'autres dates et d'autres médias. Alors, vous travaillez sur l'adaptation en français des licences Creative Commons. Vous faites ça au CERSA, le Centre d'études et de recherche en sciences administratives, avec Mélanie de Ronay, qui elle-même est spécialisée en droit européen des technologies de l'information et des médias. Alors vous-même, vous êtes doctorant, vous travaillez sur une thèse, la modélisation de l'évolution de la jurisprudence. Auparavant, vous avez eu un DESS en droit du multimédia et des systèmes d'information, un DEA de droit des contrats options droit des affaires. Donc ça fait pas mal de temps, malgré vos 25 printemps, que finalement vous intéressez de très très près à l'histoire du droit et puis du droit d'auteur en quelque sorte.
Oui, ça fait déjà pas mal de temps et en fait j'ai pas mal travaillé sur les problèmes que rencontrent les auteurs pour diffuser leurs œuvres au sein de la société, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui dans la société moderne, en fait, les systèmes type GPL ou licence libre sont probablement les plus adaptés. J'essaie de promouvoir leur utilisation d'étudier la façon dont ils fonctionnent au sein de mes recherches universitaires. Voilà.
Alors d'abord, peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que sont ces licences Creative Commons et puis leur histoire. Au départ, ça s'appelle International Commons.
Ben, en fait, il y a un an à peu près, Laurence Lessie, qui est professeur de droit à Stanford, qui avait été expert du gouvernement dans le procès Microsoft, a décidé de lancer le projet Creative Commons pour permettre aux gens qui ne sont pas même des arcanes juridiques ou des arcanes informatiques d'avoir des licences de type GPL adaptées à un peu tous les types de médias et de contenus. Donc il a mis au point un système qui par internet permet de cliquer et de choisir ce qu'on veut laisser faire et ne pas laisser faire avec ses œuvres, et qui publie, qui permet d'avoir une licence, un contrat qui soit à la fois juridique, également XML pour pour avoir une utilisation informatique simple, mm-hmm. Et également dans un texte, on va dire, langage courant pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on peut faire et ne pas faire avec l'œuvre. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, Lorenz Lessig n'est pas spécialement polyglotte non plus, et pourtant beaucoup de gens à l'étranger s'en trouvent intéressés par son initiative américaine. Donc les gens ont commencé à vouloir des traductions, etc., et il a lancé tout simplement un projet qu'il a appelé International Commons, qui vise à traduire et adapter les licences, les différentes licences Creative Commons aux différents contextes juridiques internationaux. Et donc en France, c'est l'Université de Paris 2 qui s'en occupe avec Daniel Boursier et Mélanie Dulon-Deroné et moi-même. Voilà.
Alors, en quoi consiste ce travail? Parce que j'imagine qu'au-delà de la traduction, qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, en tout cas, il y a aussi un travail d'adaptation à la juridiction française, au texte français, en fait.
Bien sûr, mais déjà, le premier problème, c'était peut-être de comprendre, en fait, la mentalité des licences Creative Commons, qui n'est pas évidente, puisque, comme la GPL, il s'agit de se reposer sur le droit d'auteur pour pouvoir le contourner, en quelque sorte. Donc, il fallait un peu des gens qui aient déjà travaillé sur le sujet, ce qui tombait bien pour moi, ce qui tombait bien aussi pour Mélanie Dulon-Droné. Et la traduction en elle-même, bon, c'est un problème de... Bon, voilà, c'est un contrat de quelques pages à traduire en français, ça peut se faire. Mais tout le problème après vient plutôt au niveau de l'adaptation du système américain de copyright au système français de droit d'auteur. On peut avoir, si vous voulez, des tas de solutions qui sont simples dans un système de copyright et qui deviennent extrêmement compliquées à mettre en place dans un système de droit d'auteur, qui ne sont pas forcément juridiquement viables. Mmh. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas proposer aux gens un contrat qui ne serait pas juridiquement sécurisé. Okay. Les gens vont pas signer pour un contrat qui peut sauter 2 ou 3 ans plus tard. Mmh. Donc, il y a déjà tout un travail déjà de compréhension du système lui-même, donc il fallait connaître le système de copyright américain, la façon dont fonctionne la licence Creative Commons, et adapter le tout au droit d'auteur français. Donc, on a rencontré différentes difficultés à ce sujet. D'abord, par rapport au droit moral, alors on a réussi à évacuer un peu le problème du droit moral. Puis surtout, on a de plus en plus de difficultés de terminologie. Par exemple, tout simplement, le terme, la licence Creative Commons parle de collective work, d'œuvre collective, mais le problème, c'est qu'elle donne une définition des collective work qui n'est pas la définition du code de la propriété intellectuelle en France. Mmh. Et donc, la question est de savoir est-ce qu'on conserve le terme tel quel, en sachant qu'il peut induire une confusion avec le code de la propriété intellectuelle, ou bien est-ce qu'on change le terme en sachant qu'à ce moment-là, on s'éloigne, si vous voulez, de la licence Creative Commons initiale. Et bien sûr, Lorenz Lessig et toute son équipe sont extrêmement vigilants par rapport aux traductions que nous pouvons faire, et ils surveillent de très près. Ils essaient vraiment de s'assurer qu'on ne va pas dénaturer leur travail. Mmh. Donc voilà.
Là, ça fait un petit peu allusion à des problèmes presque aussi de linguistique, parce que c'est vrai qu'on rédige les textes de loi dans un langage qui est quand même issu des gens qui le parlent, même si à l'arrivée les textes sont parfois un petit peu abscons. Ça pose le problème des définitions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, dans une licence, de redéfinir certains termes dont la définition ne serait valable que dans ce cadre-là?
Si, bien sûr, ça ne pose pas de difficulté. Mais le problème, si vous voulez, encore une fois, c'est que la licence Creative Commons, ça s'adresse vraiment à tout le monde et pas seulement aux spécialistes du droit. Si, par exemple, je fais un contrat dans lequel je vais donner une définition d'œuvre collective, c'est très bien. La personne qui lira le contrat tel quel se dira, voilà, c'est ça. Mais il suffit qu'un juriste tombe sur le sujet et dise, ah, mais oui, mais là, il parle d'œuvre collective dans le contrat. Et donc, mettons, on définit œuvre collective au début du contrat Creative Commons, et ensuite on réutilise le terme. Mais quel terme est-ce qu'on réutilise? Celui qui est défini au début du contrat, ou le terme qui est présent dans le code de la propriété intellectuelle, vous voyez? Et ça induit une insécurité juridique, et c'est tout. Et on peut pas prendre le risque que les contrats Creative Commons ne soient pas stables. Il faut vraiment qu'ils soient très sûrs pour que les gens n'aient pas peur de les utiliser. Parce que déjà, les gens font, si vous voulez, le fait de mettre une œuvre dans le domaine, en quelque sorte, on va dire, on met une œuvre dans le domaine public plus tôt, c'est une décision politique. Il ne faut pas que plus tard, on puisse la regretter ou avoir peur que son œuvre soit finalement utilisée à des fins à laquelle on ne la destinait pas. Donc c'est très important de faire un travail d'adaptation juridique qui soit bien fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on fait ça à plusieurs aussi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a lancé dans l'adaptation des licences Creative Commons. Il y avait donc une première phase qui était la traduction telle qu'elle, et maintenant nous en sommes à la phase de discussion publique, à savoir que le texte qu'on a produit est disponible sur le site de Creative Commons, et tout le monde peut réagir dessus, mais aussi bien au niveau juridique qu'au niveau simplement des termes qui sont employés, ou si quelqu'un pouvait penser que la façon dont on a tourné la chose est moralement inacceptable ou ce genre de choses. Il faut absolument venir nous le dire avant que le travail soit terminé et qu'il soit définitif.
Donc en fait c'est un appel à la communauté des utilisateurs potentiels de se rendre sur place, de lire et puis de dire ce qu'ils en pensent. Au niveau de l'agenda, normalement ce serait pour février-mars qu'il y aurait quelque chose d'officiel en fait.
C'est ça, en fait on espère avoir une version finale pour février-mars, de sorte que le système serait implémenté d'ici le mois de juin, peut-être probablement un peu avant. Ça serait le mieux, on a l'exemple du Japon où l'adaptation de Creative Commons est déjà un succès et où ça a pris effectivement à peu près 5-6 mois. Et en France, on a quelques, je dirais, soucis supplémentaires parce qu'on souhaite vraiment privilégier la compatibilité avec les licences qui existent déjà, du type GNU/FDL ou bien licence Air Libre. Donc ça va nous demander peut-être un petit peu plus de travail, mais on a bon espoir d'avoir terminé tout ça. D'abord la discussion publique pour le mois de mars, puis la version finale pour le mois de mai.
Alors pour finir, on avait évoqué avec Albert un petit peu plus tôt un côté historique, à savoir que ça soit la loi du droit d'auteur ou du copyright, c'est des textes qui ont été écrits il y a quand même assez longtemps, en tout cas avant l'avènement de ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec les logiciels libres et puis aussi avec tous les efforts qui sont faits vers des nouvelles licences concernant la musique, on se rend bien compte que peut-être qu'il y a besoin dans le corps de texte des législations de quelques pays qu'ils soient, il y a besoin d'un vent nouveau, peut-être de textes un petit peu plus modernes ou un petit peu plus actuels en tout cas, justement pour permettre d'enlever les défauts des précédentes lois et puis d'amener plus d'eau au moulin peut-être.
Mais alors là, par contre, j'ai une opinion personnelle à ce sujet, c'est que on peut pas espérer non plus des lois. C'est pas les lois qui résoudront les problèmes, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans un système où, par exemple, l'industrie musicale a un business model qui est basé sur la diffusion de la musique ils font leur marge sur la vente de CD. Ils peuvent pas du jour au lendemain passer à un business model qui serait basé sur la diffusion musicale par Internet et surtout sur la libre diffusion musicale par Internet. Alors oui, qu'on peut imaginer des business models correspondants, si vous voulez. Donc, c'est plus un problème de prise de conscience qu'un problème réellement de nouvelles lois. D'ailleurs, les outils pour la société que l'on veut existent déjà dans les lois actuelles. Regardez, Creative Commons fonctionne avec les lois existantes, il ne demande aucune modification. De même, la GPL fonctionne parfaitement bien avec les lois existantes. Et si vous voulez, c'est plus une prise de conscience qui est nécessaire, qui est en train de se faire, par exemple, au niveau de la documentation scientifique. Vous avez de plus en plus de revues scientifiques qui utilisent des systèmes type GPL ou Creative Commons, comme par exemple le projet PLOS, la nouvelle revue scientifique libre online et papier, utilise une licence Creative Commons. Oui,
tout à fait.
Et c'est petit à petit, sans doute, qu'on arrivera à faire prendre conscience aux gens que la culture... qu'il faut refuser la marchandisation absolue de la culture et l'augmentation indéfinie des droits d'auteur au détriment du public. Et on n'a pas forcément besoin de changer les lois ou d'espérer changer les lois, mais par contre ce qui est certain, c'est qu'il faut être vigilant que les lois ne soient pas modifiées dans le sens inverse. Mmh. Et là, c'est pour ça qu'énormément de gens font un lobbying actif contre les brevets logiciels, etc., et que leur effort est extrêmement important, parce que autant je ne suis vraiment pas certain qu'on puisse, je dirais, élaborer des lois modernes. Il faut bien prendre conscience aussi que les lois qui ont été élaborées il y a déjà longtemps ont mis peut-être 200 ou 300 ans à être élaborées. Mais par contre, il ne faut pas non plus qu'on revienne au Moyen-Âge et un système qui donnerait tout pouvoir aux auteurs et à leurs ayants droit, à l'industrie de la musique, de la culture, etc.
Jean-Baptiste Souffron, merci beaucoup pour cette collaboration à Divergence Numérique. On vous souhaite beaucoup de visites sur ce texte et que les choses avancent le plus vite possible.
Bien sûr. En tout cas, j'invite tout le monde à participer au site Creative Commons pour venir commenter notre projet de texte et pour qu'il regroupe le plus d'avis pertinents possible. Voilà.
Merci beaucoup et que 2004 soit une bonne année.
Bonne année à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Crackin'
Voilà, Mémé, ça se trouve chez Loca Records, une maison de disques de Brighton. Lui-même, Mémé, David Mémé de son prénom, est un musicien basé à Brighton qui vient de Birmingham à l'origine. Après une série de groupes plus ou moins foulaires, expérimentaux durant les années 90, il s'est intéressé à la scène électronique qui démarrait et a fait son propre studio d'enregistrement à la maison pour enregistrer sa musique, souvent décrite comme un peu mélancolique, downbeat comme influence. Son dernier album s'appelle Affectivity, il a été sorti chez Loca en mars 2003. Loca Records, comme je le disais, qui avait au départ en fait fait sa propre licence et qui aujourd'hui en fait a adopté donc une licence Creative Commons, celle dont on a parlé pas mal dans le cadre de cette émission. Alors comment qu'on fait une fois qu'on choisit une licence, quel est le mode d'emploi en fait?
Si on est créateur de musique, d'ailleurs c'est un peu dans le même cas pour les logiciels, d'abord quand vous faites un morceau, vous pouvez déjà commencer à le distribuer par tous les moyens possibles, c'est-à-dire soit par un fichier on va dire électronique, de préférence un .ogg. C'est Ogorbi, c'est un format comme le MP3 que tout le monde connaît, mais à la différence du MP3, lui, libre.
Et deuxième différence, il est de meilleure qualité.
De meilleure qualité, exactement. Donc en fait, si vous le distribuez, que ce soit sur bande, sur compact, sur DAT ou de manière électronique, il faut que vous joigniez à tous ces enregistrements un fichier ou alors un papier donnant en fait la licence que vous utilisez. Alors ça peut être une des 9 licences dont nous en avons parlé, avec à peu près une phrase de ce type-là, qui dit que vous autorisez à reproduire, modifier et diffuser les compositions musicales et les enregistrements sonores figurant sur ce support, à condition que la notice utilisée soit inclue dans tous les exemplaires réalisés dans l'œuvre susdite.
Donc en fait la condition sine qua non, en fait, c'est que ladite licence qu'on a choisie accompagne systématiquement soit systématiquement mentionnée en fait à chaque fois qu'il se passe une étape dans la vie de ces morceaux.
Tout à fait. Et si vous en tant qu'utilisateur vous redistribuez après un de ces morceaux, il faut obligatoirement que vous y remettiez cette licence, même si vous nous mettez par exemple, si vous avez eu un CD avec cette licence, que vous n'en redonnez qu'un morceau à un de vos amis, il faut que vous joigniez le morceau et la licence. Parce que là, il y a une licence qui doit être respectée, sinon, après, c'est le droit d'auteur qui intervient. Ça, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est valable, même pour les licences du libre, qui n'autorise pas la diffusion des enregistrements ou de logiciels sans que la licence soit respectée. Si vous ne respectez pas la licence, vous n'avez pas le droit. Mais si vous la respectez, bien entendu, la diffusion, vous êtes autorisé.
Alors, petite question pratique aussi, pour ceux qui adhèrent à la SACEM, ils savent que ça fait à peu près une centaine d'euros pour adhérer à la SACEM. Qu'en est-il pour ces licences libres? Est-ce qu'il y a un droit à payer au départ?
Non, il n'y a pas de licence à payer. Par contre, ce qu'il faut savoir pour pour ceux qui sont à la SACEM, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose qu'à l'extérieur de la SACEM. C'est-à-dire, si vous êtes déjà inscrit à la SACEM, en tant qu'auteur, vous y êtes pieds et poings liés. Vous ne pouvez plus en sortir. Donc, les licences libres vous sont, à ce moment-là, interdites. Vous n'avez le droit de faire des musiques libres que si vous n'êtes pas inscrit à la SACEM. C'est la SACEM qui a fermé et qui enferme les auteurs dans leur licence.
Bon ben voilà, chers sociétaires de la SACEM, si vous l'êtes, ben c'est râpé pour vous. Filez le conseil à vos enfants ou à vos petits-enfants, ça pourrait peut-être leur servir.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même si la licence est libre, ça je le répète encore une fois, ça ne vous empêche pas, si vous aimez les morceaux, de participer à la vie de cette œuvre. Ça n'a rien à voir avec le libre, mais en lui faisant un don, en allant à ses concerts, en lui achetant ses CD, ses DAT ou ses MP3. Ça, c'est, ou c'est Hawk d'ailleurs, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est bien aussi que l'auteur soit rémunéré pour son travail.
Voilà, et ben on va écouter encore de la musique. Là on va changer un petit peu d'ambiance sonore. On change aussi de label avec un groupe allemand qui s'appelle les Magic Mushroom. Je sais que leur site était en ligne il y a une semaine. J'ai regardé hier, il était en construction. Alors ça veut dire qu'ils sont toujours actifs. Ils cherchent un autre nom. Alors je sais pas si celui-là leur a pas plu. En tout cas, bah c'est plutôt rock, c'est plutôt bon enfant. Ben on va écouter ça tout de suite. Leur site, c'est www.magic-mushrooms.de. À l'heure actuelle, je crois qu'il est en construction, en tout cas en remaniage. Ils nous interprétaient Open Source, un titre qui coule de source.
Ah, c'est clair.
Elle est facile. C'est un groupe formé en 94. Dernière nouvelle, ils avaient un album sorti en 2002. Ils cherchent un nom. Alors, rendez-leur visite. Petite précision, si les licences libres applicables à la musique avaient été en place depuis fort longtemps, il y a des petites histoires comme ça qui seraient pas forcément arrivées. Alors, en tout cas, celle du musicien cubain Compay Segundo, qui a connu la gloire une fois âgé de plus de 90 ans. Sachant tout de même que ces enregistrements étaient autrefois détenus par EMI, qui depuis plus de 10 ans les avait sous le coude sans rien en faire, avant d'être revendu à un petit label qui a produit le désormais incontournable Buena Vista Social Club, plusieurs millions d'albums vendus dans le monde, ainsi que plusieurs autres millions de bandes originales du film de Wim Wenders portant le même nom. Alors c'est le genre d'histoire qui aurait pas pu arriver avec des licenciés, puisque justement ça donne de fait le droit aux musiciens de distribuer sa musique finalement.
Tout à fait. L'avantage en plus des licences libres, c'est que ça permet vraiment à l'auteur de directement faire appel à son éditeur sans passer par une maison de disques qui peut retenir, parce que ça ne correspond pas à sa politique ou que ce soit, son œuvre. Et ça lui permet donc de se faire connaître plus facilement et plus rapidement par le public. C'est vrai que le cas de Segundo est un cas assez amusant. Bon, il a 90 ans aujourd'hui, même un peu plus maintenant. Mm-hmm. Avoir le succès à 90 ans, c'est bien, mais il aurait sans doute souhaité l'avoir plus tôt.
On a souvent abordé dans Divergence Numérique les problèmes des logiciels libres et les attaques dont ils font l'objet. J'imagine que ça ne doit pas être non plus du goût de tout le monde que les licences libres se développent et fassent des petits, notamment de la RIAA, qui est le consortium américain de l'industrie phonographique, on dira. Mm-hmm. Donc, est-ce que sur le terrain, comme ça, de la lutte, il se passe des choses?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses sont un peu compliquées, parce qu'en fait, elles sont maintenant au niveau de l'Europe. On en a un peu parlé avec l'UCD, et en fait, l'UCD, ouais. c'est le droit à la copie privée, c'est le droit d'auteur aussi. Et en fait, ce qui est en train de se passer est vraiment assez bizarre. On est en train de restreindre complètement les droits de tous les individus, mais en fait, les droits aussi des auteurs. C'est-à-dire que les auteurs, avec cette nouvelle réglementation qui devrait rentrer en vigueur normalement en avril, mai prochain, les auteurs vont se retrouver coincés, ceux qui écoutent vont se retrouver aussi coincés, et ceux qui profiteront du système seront, bien entendu, les grosses majors, qui cherchent bien sûr à prendre le contrôle de tout ça. Ce qui est assez amusant aussi, c'est de savoir que la députée européenne dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est la femme du patron d'Universal Vivendi en France, essaie de faire passer cette loi, et même au niveau de l'Europe, tout le monde crie au scandale, parce que les conflits d'intérêts sont vraiment très très marqués à ce niveau-là.
Ouais, c'est vrai que ça craint un peu, disons-le tout net. L'heure tourne, on va écouter un petit peu de musique, encore un groupe que l'on retrouve sur le label locarecords.com en l'occurrence. On va écouter deux morceaux, un morceau de Maz Plant Out, un duo féminin parisien, et puis un morceau de ML qui s'appellera pour sa part Heavy Artillery.
Yeah.
Voilà, c'est ML qui nous interprète Heavy Artillery, c'est un excellent groupe. On précise que c'est un artiste que vous retrouverez, c'est locarecords.com, ainsi que Mass Plant Out qu'on a écouté juste avant, notre duo féminin qui chante un peu, ça frotte un petit peu par endroit, par moment, mais c'est plutôt bien aussi, ainsi que Mémé ou Wad qu'on écoutera en se quittant. Et d'ailleurs, on va se quitter bientôt, non sans rappeler... Que c'est le 25 décembre et puis bientôt la nouvelle année. Alors tout un tas de vœux que nous envoyons tout d'abord aux partenaires de cette émission Divergence Numérique, linuxfrench.net, lealinux.org.
Divergence FM.
Divergence FM, bien sûr. On souhaite une bonne et heureuse année à tous les auditeurs de Divergence FM, qu'ils soient en hertzien ou qu'ils soient sur Internet. On souhaite aussi une très bonne année à tous les lecteurs de Linux Magazine France qui nous écoutent aussi peut-être sur le CD.
Tout à fait, comme chaque mois.
Voilà, une bonne année à Jean-Claude qui n'est pas avec nous et ainsi qu'à Anthony qui nous fait défaut aussi, mais on pense très fort à eux. Et puis on va se quitter sur la musique de Wad avec un titre super galère à lire. Alors c'est Sesquipedalian Origins. C'est un petit peu bizarre. Et puis on remercie aussi Bruno Meria qui nous a accompagnés lors de cette divergence numérique. On te remercie Albert. Est-ce que le portail Léa Linux Linux French est disponible bientôt?
Très très bientôt. On a pris un peu de retard. Il faut dire qu'on a eu pas mal de galères les uns et les autres, mais très très bientôt. Je pense que pour la prochaine émission, nous pourrons vous en parler et vous le faire découvrir.
Voilà, vous retrouverez tous les renseignements sur musique-libre.com et on fait un spécial ovation à Obi-Wan Ben Giraffe qui maintient cet excellent site qui regorge de toutes les informations utiles sur ce thème. On va laisser Albert nous dire la phrase du jour et je vous souhaite pour ma part une très très bonne année.
Bonne année à tous. La philosophie du libre et de la musique profite aussi bien à la société qu'aux individus en préservant leur liberté et surtout en préservant la liberté des créateurs. C'est la liberté la plus importante au niveau du droit que la société peut offrir à l'individu.